Comme les dunes de sable, les entrées font le yo-yo et aujourd'hui il semblerait qu'elles soient au top. On y revient dans quelques instants dans Opening Weekend, dans des nouveaux locaux.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec une voix, il faut bien le dire, un petit peu rocailleuse pour moi ce soir, mais en tout cas ça va passer, on est dans des nouveaux locaux aussi, donc nouveaux sons, locaux de Vega Prod qui évidemment est derrière Débriefing depuis le début de cette aventure qui date maintenant d'il y a 11 ans, Lionel Guénoun d'ailleurs est là, mais ce n'est pas le seul autour de cette table puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie ce soir de Tom Abrami. Salut Tom.
Salut Aurélien.
Julien Bernard, salut Julien.
Salut Aurélien, salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble.
Exactement, et Max Marjolais, salut Max.
Coucou.
Une émission 100% masculine, mais on pense évidemment à Charlotte, à ma fille, à Arthur aussi, qui... non, c'était... Vous l'attendiez celle-là.
Oui, oui,
mais
oui.
Mais on pense à tous ceux qui ne sont pas là ce soir.
À Jérémy.
Et à Jérémy, bien sûr, qui nous rejoindront pour une prochaine émission. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont écouté les dernières. Je n'étais pas là, vous avez bien tenu la baraque, comme on dit, et vous avez surtout ouvert des discussions qui ont fait un peu réagir, donc ça fait plaisir à voir. Et puis aussi, on rappelle, vous pouvez toujours écouter cette formidable interview exclusive de Denis Villeneuve pour la sortie de Dune 2, et également Le Café avec Dédé qui a été publié vendredi sur les visiteurs cette fois-ci. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui appréciez ce format, donc n'hésitez pas. On a beaucoup d'actualités en ce moment et en plus on vous réserve également dans les jours qui viennent des petites surprises. Est-ce qu'on tease un petit peu, je sais pas, comme vous voulez?
On va teaser même bien en parlant d'un film italien qui arrive cette semaine dans les salles, donc voilà.
La semaine prochaine, tu veux dire?
Et la semaine prochaine, tout à fait.
On se perd dans les jours entre ce qu'on enregistre avant, ce qu'on enregistre après.
C'est ça, et l'équipe du film, la réalisatrice, actrice et l'acteur principal sont passés par Paris et ils sont évidemment passés au micro de l'incontournable Débriefing.
Ah, c'est une belle mise en avant de ce qui nous attend pour dans quelques jours. On aura d'ailleurs le plaisir dans quelques jours également d'être en compagnie, si tout se passe bien, de Xavier Albert pour la sortie de ce film événement, et également parler d'une autre major que Warner, puisqu'on était avec Warner il y a quelques temps, chacun son tour. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore passé au micro, vous pouvez dans quelques temps. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'on a eu un ou deux messages sur Insta, notamment de fans qui voulaient savoir un peu plus qui on était, comment on s'appelait, tout ça. Donc ça fait toujours chaud au cœur. On vous répond, donc n'hésitez pas aussi à nous laisser des messages.
Sinon, il faut écouter C'était mon film.
Voilà.
Vous découvrez un petit peu plus chaque membre de l'équipe, ses choix, ses goûts.
Quelle belle transition, Julien, puisque cette semaine, là aussi, si tout se passe bien, on devrait avoir un nouvel épisode de C'était mon film, l'émission tenue par Charlotte, où, comme tu le soulignes très bien, on revient sur des films qui ont marqué notre vie, quoi, à tous, ici. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on a pas mal d'actualités et que le cinéma, cette semaine, a rebondi, a refait parler de lui avec cet événement que tout le monde attendait, Dune 2, le film de Denis Villeneuve. Est-ce que tout de suite, on embraye, Julien, sur le démarrage monde de ce film qui était très attendu?
Oui, on va se focaliser au début sur les films américains, puisqu'il n'y en a que trois dans le worldwide. Donc on va se poser un petit peu.
Mais il y en a déjà trois.
Il y en a déjà trois, c'est vrai. Et on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais c'est vrai que là, il y a des films chinois, des films japonais, des films taïwanais, des films coréens. Voilà, donc ça vient de partout. Bon, surtout d'Asie, on va dire quand même. Mais donc, Dune 2, réveille-t-il le box-office? On l'attendait aux États-Unis à 80 millions de dollars de recettes. C'était l'estimation haute. Et il fait 81,7 millions. Donc, démarrage réussi aux US. Dans le monde, il est à 178 millions de dollars, 97 millions à l'international. Alors, juste pour rappeler, là, les 80, déjà, au niveau du box-office, les 80 millions de dollars, c'est plus que le cumul de la semaine dernière du box-office américain qui était à 60 millions. Et alors, le résultat, si on veut parler de concentration, sur le box-office américain, Dune représente 71% du box-office de cette semaine.
Heureusement qu'il est là.
Heureusement qu'il a à titre de comparaison, on le verra en France. En France, c'est autour de 30%. Et alors, Japon et la Chine ne sont pas encore sortis. Les territoires en tête, c'est le UK, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud. La France en deuxième position, avec des notes dithyrambiques, puisqu'il est à 95% sur Rotten Tomatoes. Il a une note de A sur CinemaScore. C'est le meilleur démarrage pour Denis Villeneuve. Le précédent Dune, il avait ouvert à 40 millions de dollars. Il avait fini à 108 millions de dollars. À l'international, si je ne me trompe pas, c'était 324 millions de dollars. Il avait terminé à 433 millions. Donc là déjà, avec 178 millions, il a presque fait la moitié du score du précédent.
Mais alors donc quand on écoute, là, on a l'impression que c'est monumental. Et je sens pourtant point un soupçon de « ouais, mais on attendait un peu plus ». Parce qu'il y a cette attente extraordinaire sur ce film qui arrive dans un contexte où déserté par les blockbusters.
Déjà, la dernière fois, quand il était sorti, c'était période de Covid. Il était sorti sur HBO en même temps. Donc c'est difficile de comparer exactement. Après, on va dire que c'est surtout sur la qualité du film, parce qu'on sait que c'est un film, à la différence de certains films qui ont un coefficient qui va s'écrouler assez vite, un coefficient multiplicateur qui permet de calculer entre le démarrage fin de vie sur le week-end, qui va durer. Les retours sont quand même dingues sur le film. Donc forcément, il y a une attente. Alors après, est-ce qu'il va réussir ? C'est les films de SF, hein. Donc il y a toujours cette question... Où est-ce que ça s'arrête un film de SF auteur ? Parce que tu ne peux pas non plus le comparer à Star Wars, non. Qui avait ouvert à 180 millions, qui est qu'on suit depuis plus de 30 ans, qui parle à tout le monde. 40. Là, tu es quand même sur un objet un petit peu plus... Oui, 30, ça peut être 40.
45 ans.
Mais donc, tu es sur un objet un petit peu plus à la Kubrick presque, j'aurais envie de te dire, tu vois.
C'est pour ça que moi je trouve que les 80 000 aux États-Unis en tout cas sont déjà assez impressionnants pour un film de, on rappelle quand même, de pas loin de 3 heures, enfin 2h40. Bah,
Non, mais moi je pense que c'est un très très beau score. Après, c'est si tu le replaces dans le top 5 des films, dans le top 25 des films de science-fiction. Par exemple, le premier Dune, il avait terminé à la 59e place. Évidemment, tu as tous les Avatars, les Star Wars, ils ont même mis du Jurassic, tu as du Rogue One. Donc pour rentrer, on va dire, dans le top 20, il faut quand même qu'il aille chercher 800 millions de dollars de recettes. Donc il faut qu'il double son score. Moi, je pense que c'est faisable. On verra à la fin. Là, c'est très compliqué de donner un chiffre fin de vie. C'est vrai qu'en plus, la Chine n'a pas ouvert, donc ça peut booster également. Donc voilà, ça reste pour moi un excellent chiffre. On va voir où il va finir dans le top 25 ou dans le top 20 des films de science-fiction, mais ça peut être une vraie bonne surprise. Et il va travailler sur la durée, forcément.
Max. On peut dire que c'est un très très bon résultat, mais si c'est le meilleur score de 2024, c'est décevant pour l'année, quoi.
Et le meilleur score. Bah, c'était quand même au début de l'année.
Non, mais c'est sur pas, l'année, je veux dire. Toi, sur l'année
pour toi, l'année, elle est finie, là. Ça y est, Max. On plie bagage, on fait Noël.
C'est janvier-février.
Je fais une extrapolation. Je dis, si en 2024, à la fin de l'année, le meilleur score, c'est Dune, c'est que c'est une déception pour l'année. C'est très bien, mais a priori, on verra mieux cette année. C'est pas un score historique.
Oui, non, mais tu démarres pas avec, comme on le disait, les scores historiques, c'est quand tu vas dépasser les 200 millions en opening weekend, mais personne l'attendait à ce niveau-là. Non.
Est-ce qu'on a des indications sur l'IMAX ?
On sait que les formats spéciaux comptent beaucoup. Ça représentait 18 millions à peu près, je crois, aux US, et à peu près le même niveau sur l'international. Donc c'est de toute façon un film fait en plus pour les formats premium. Ouais. Donc forcément, le prix du ticket est important. Il est important, puisque de toute façon, là, ici, on est déjà en recette. Donc ça permet de le voir. Et alors au Worldwide, parce que j'ai repris en fait le classement Worldwide pour voir où il se situait, il se positionne, il arrive en cinquième position et c'est le premier film américain de l'année. Avant, on a YOLO qui est à 454 millions. On a Pegasus 2, on va en parler, qui est actuellement dans le box-office Worldwide de cette semaine. Article 20, pareil. Donc Pegasus 2, il a 424 millions. Et lui, il se trouve en sixième position cette semaine. On a Article 20 qui est à 285 millions et lui qui se trouve en quatrième position sur le Worldwide. Donc ça, c'était un film chinois. Et juste avant, Pegasus, c'était également un film chinois. Donc voilà, Dune aujourd'hui est en cinquième position du box-office Worldwide. S'il va chercher, en tout cas, il devrait aller chercher au-dessus des 500 millions et prendre la tête assez rapidement.
intéressant, encore une fois, hein, ce box-office international où, comme tu le disais, la Chine domine un peu les débats encore avec 4 films dans le top 10. Et derrière, eh bien, on le disait, un film japonais, un film sud-coréen, un film taïwanais.
C'est les 4 films qui sont sortis au moment du nouvel an chinois.
Dont on vous a déjà parlé.
C'est les 4 films qui sont au-dessus de Dune au cumul mondial.
C'est fou. Mais bon, il devrait, Dune, on l'espère en tout cas, aller chercher ses scores. Un mot pour terminer ou pas? Moi, j'avais des petites choses à rajouter sur le box-office US. Si
ouais, il y avait Bob Marley. Alors, Bob Marley, il en est où, notre cher Bob? 82 millions sur le box-office US, 146 millions worldwide. Voilà, joli score, inattendu même, j'ai envie de dire, sur Bob Marley. Madame Web.
Ça va faire des émules au niveau des biopics musicaux parce que on sent les studios très enclins à en faire. Mais les résultats ne suivent pas forcément. Et là, d'avoir un petit pic musical qui a une traîne positive, ça va, je pense vraiment que ça va créer des émules derrière.
Rappelons qu'il y a Michael.
C'est ce que j'allais dire. Prévu.
Et Amy Winehouse, bien avant encore.
Et il y a aussi. Il y avait un Prince ou pas qui est...
Alors, Prince, pour l'instant, a priori, il est encore en développement.
Après, alors voilà, c'est toujours compliqué de savoir le degré de notoriété. Notoriété, ça veut dire à quel moment tu es capable de payer ta place de ciné pour aller voir Bob Marley. Queen, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. C'était juste incroyable. Et il y en a d'autres où on a pu être un petit peu déçus, comme les un peu plus jazzy.
Respect,
Aretha Franklin,
ouais,
exactement.
Respect, ça avait été une déception. Il y avait aussi, bon, ça c'est encore plus confidentiel, mais il y avait un biopic sur Chet Baker aussi, avec Ethan Hawke, qui avait été une vraie déception. Mais voilà, c'est un genre qui a du mal à performer, non pas qu'en France, mais à l'international.
Bah, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on a récemment eu un musical, ou en tout cas l'adaptation d'un musical qui était Wonka, qui a bien performé.
Qui a 650 millions.
On a un biopic qui a bien performé et une comédie romantique qui a également bien performé. Donc des genres a priori pas faciles qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Est-ce que c'est des one-shots ou est-ce que ça va
En tout cas, non, ce ne sera pas one-shot parce que tu sais très bien que derrière, il y a des gens qui vont se remettre aux comédies romantiques. Alors après, moi, comédie romantique, c'était comme le... Alors sans... Quand Very Bad Trip est sorti, déjà les comédies US étaient moins à la mode. Ouais. Mais tu avais eu que Very Bad Trip qui avait vraiment réussi à sortir du lot. Ouais. Donc, qu'il fasse un Anyone But You numéro 2, oui, il marchera. Après, ça va quand même dépendre de la qualité. Il y avait eu un effet TikTok qu'on ne maîtrisait pas parce que les démarrages étaient tout gentils. Hein.
Ouais, donc, c'est clair. À noter sur le box-office US, moi, je voulais juste faire un focus puisque vous avez fait un beau point la semaine dernière sur les Césars. Là, il y a les Oscars qui arrivent. Et côté film étranger, dont on ne parle pas forcément beaucoup en termes de recettes sur le territoire américain, on pourra noter quand même que la zone d'intérêt cumule 7,8 millions de dollars de recettes, ce qui en fait un énorme succès. Que Anatomie d'une chute est autour de 5, un petit peu en dessous de 5. Et ça c'est une petite anecdote quand même assez amusante, c'est que The Taste of Things, à savoir...
La passion de Dodin Bouffant.
La passion de Dodin Bouffant.
Ça peut être le goût des choses.
C'était pas The Pot au Feu au départ.
Oui, c'était le Pot au Feu, tout à fait.
Ça a changé du coup.
A quand même cumulé plus de 2 millions de dollars de recettes sur le box-office américain. Et que mon petit préféré de l'année côté film étranger, Perfect Days, lui en est également à 2 millions d'entrées, le film de Wim Wenders. Et
la zone d'intérêt, c'est pas
2 millions de dollars, pardon. 2 millions de dollars. Quoi, tu disais ?
La zone d'intérêt, moi je suis étonné que ce soit pas un film US. Et je crois que c'est un film A24.
Non, ouais.
UK, ouais, mais UK, US.
Alors. Voilà. Enfin bon, vous avez comme ça le détail. Et le film des Coen, enfin qui n'est pas les Coen, mais le Coen, Drive Away Dolls, qui arrive prochainement, en est lui à 4 millions de dollars. Voilà, c'est des petites indications qu'on vous a pas.
Bon, lui, il s'est déjà raté aux États-Unis. Hein.
Oui,
La France, ce sera peut-être le seul pays où il peut fonctionner. C'était un petit peu le cas de Babylone, de Fablemans. Alors peut-être pas à la même hauteur, hein, mais on sait qu'on est un pays où un peu plus cinéphile et qui répond plutôt de manière positive aux films indépendants
même,
de qualité.
Même Winter Break, je crois qu'il avait surperformé en France par rapport aux US aussi, le Alexander Payne.
Exactement.
Ouais, Winter Break, il apparaît plus là, mais c'est vrai.
Ah, tiens, petite question là sur un petit forecast sur les prochains films américains, parce que c'est aussi intéressant de voir ce qui vient.
Prévision, forecast pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc on a Kung Fu Panda 4 qui va arriver le 8 mars, on a Ghostbusters qui va arriver le 22 et Godzilla le 29. À votre avis, lequel est attendu au plus haut niveau, en opening weekend, je parle évidemment.
Entre Kung Fu Panda 4,
Ghostbusters et Godzilla versus Kong.
Sur le territoire américain uniquement.
Sur le territoire américain, oui.
Je dis Kung Fu Panda 4.
Kung Fu Panda 4.
Ghostbusters.
Ouais, Ghostbusters, moi aussi.
Eh ben, c'est Godzilla. Godzilla, il est attendu entre 41 et 50. Ghostbusters entre 35 et 49, donc il peut aller titiller Godzilla. Et Kung Fu Panda entre 30 et 39.
Bon, bah voilà.
Sachant que Godzilla, le dernier de la volée Godzilla versus Kong, n'est pas sorti en salle. Ce qui fait qu'il y a une grosse inconnue. Enfin, il n'est pas sorti en salle en France, je crois qu'aux US, il est sorti en même temps que sur HBO Max.
Et sachant aussi qu'on a vu sur les films d'animation que le démarrage pouvait être un peu moyen et s'avérait être un résultat très fort à l'arrivée. Bah écoutez, merci. À noter également qu'on parlait des Césars et au moment où vous avez enregistré l'émission, est tombé le dernier César qui n'avait pas été dévoilé pendant la cérémonie, le César des lycéens. Qui a été décerné.
Et ça, c'est une surprise.
C'est une surprise parce que vous disiez qu'il n'avait justement pas trop été mis à l'honneur.
C'est vrai.
À Je verrai toujours vos visages, le film de Jeanne Herry.
Et c'est donc, très bien voilà. Comme ça parce que ça permet de le mettre en avant, vu qu'il n'a pas tellement été mis en avant pendant la cérémonie.
Voilà, ça c'était pour clore les débats. On reviendra bien sûr sur les Oscars quand ils seront passés. Maintenant, il est temps de faire une petite pause musicale et de nous retrouver pour les chiffres du Box Office France.
C'est beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Les chiffres du box-office avec bien sûr Tom qui va nous dire un petit peu où nous en sommes cette semaine.
Ouais, et avant de parler de la semaine, on va jeter un petit coup rapide dans le rétroviseur avec Julien puisque le mois de février vient de s'achever et je crois que tu as quelques infos à nous donner sur la fréquentation de février 2024.
Oui, justement, on se posait la question sur ce mois de février. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avions eu Astérix, nous avions eu Alibi. Cette année, il y a eu quelques films, mais ça semblait un petit peu moins puissant et ça se confirme avec un mois de février à 15,07 millions d'entrées selon le CNC. Donc, c'est une baisse de 16% par rapport à 2023. Donc, au cumul aujourd'hui, après deux mois d'exploitation, deux mois un petit peu...
En dents de scie.
Voilà.
Un peu soft.
Nous sommes à 28,61 millions d'entrées. En 2023, nous étions à 32,84, donc ça lui fait pour l'instant une baisse de moins 13%. Alors on est au-dessus de 2022, je n'ai pas tout sous la main, mais 2022, on était autour de 23 millions d'entrées. Mais si tu reprends les années 2019-2018, c'était à 40 millions. Donc on a déjà 12 millions de retard si on compare sur cette période et on est à moins 13% par rapport à 2023. Donc il va falloir envoyer un petit peu.
Et quels sont les films, les gagnants du mois de février?
Alors il y a eu 54 films qui sont sortis. Alors c'est marrant parce que quand même sur 54 films, il y a eu 4 films américains et 24 films français. Alors l'année dernière, en 2023, c'était 5 films américains et 37 films français. La part de marché des films français, elle est estimée à 40 millions. Et alors la première place du classement, elle est occupée par Cocorico. Ensuite vient Maison de retraite 2, Le dernier Jaguar et Chien et Chat. Et tu retrouves évidemment Bob Marley. Bob Marley, où est-ce qu'il se situe? En tout cas, Bob Marley, ils l'ont classé en britannique. Et le premier film américain, c'est Tout sauf toi, qui était sorti le 24 janvier.
En tout cas, on peut dire aussi que Bob Marley a fait une belle surprise, une belle percée. On ne l'attendait peut-être pas aussi haut, tout comme Cocorico, tout comme films.
Bob Marley, tu as raison, pardon, pour revenir, il était deuxième du classement. Tu avais Cocorico, Bob Marley, Maison de retraite, Dernier Jaguar et Chien et Chat.
Et Bob Marley, la preuve que les films UK, ça ne veut rien dire, c'est un peu des films US.
Là tu rouvres un débat qui existe depuis plusieurs années et notamment qui revient à chaque fois au moment des BAFTA, parce que finalement les BAFTA ce sont les Césars britanniques, et on se dit, et beaucoup de gens qui ne suivent pas forcément l'actualité du cinéma de près, ils disent mais pourquoi il y a cette cérémonie, ça se passe en Grande-Bretagne mais ça prime des films américains. Et en fait, j'ai pas exactement en tête la règle précise des BAFTA, mais il me semble qu'il suffit qu'il y ait une toute petite part de coproduction anglaise pour que le film soit classé comme anglais et soit nommé au BAFTA. Ce qui fait qu'il y avait à peu près tous les gros films américains de l'année cinéma qui étaient éligibles au BAFTA.
C'est bien de faire cette précision, parce qu'on n'est pas toujours au fait hein, de pourquoi nommé ou pas nommé.
Il n'y a que des films américains au BAFTA.
si on veut être un peu cynique, on peut dire qu'il n'y a que des films américains au BAFTA.
Mais moi, je me pose quand même toujours cette question, parce que Barbie, ouais. C'est US ou UK? Parce qu'à un moment, c'était sorti comme quoi c'était UK, mais...
Moi, je l'ai noté en UK, en fait, comme Bob Marley, comme La Zone d'Intérêt, tout ça.
En tout cas, tout le monde l'a pris ou l'a mis dans les parts de marché US. Hein.
Après, c'est un film Warner, donc c'est un film US en vrai.
Allez, on parle là-dessus.
Et il faut quand même donc se dire que là, on débute un mois de mars, on va dire avec pas beaucoup de blockbusters, mais qui peut être une belle surprise, ne serait-ce que parce qu'il y a le printemps du cinéma qui pointe le bout de son nez d'ici quelques jours, qu'il y aura pas mal d'avant-premières et aussi des sorties très attendues. Je pense, on parlait de Coup de Foudre tout à l'heure, mais également chaque semaine, là, des petits films qui peuvent s'imposer comme des vraies belles surprises dans les semaines à venir.
À part la semaine prochaine, à part mercredi, là.
À part ce mercredi?
Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bons films, c'est que ça manque un peu de films locomotives.
Oui, on va voir. On en reparle
à la fin.
Il y a débat. Alors, Tom.
En tout cas, avant de parler des films de la semaine prochaine, revenons sur ceux qui sont sortis et sur le marché du week-end, puisqu'on était sur deux semaines en tête consécutive pour Bob Marley One Love. Il a cédé sa première place pour laisser la place, évidemment, et on l'attendait à Dune deuxième partie. Alors, ça... Le fait que Dune, deuxième partie, soit premier, c'est pas une surprise. Maintenant, l'enjeu, c'était de se dire 1 million premier week-end ou pas 1 million premier week-end. Et puis finalement, à la photo finish, on arrive aux 1 126 000 entrées sur les 5 premiers jours pour Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. C'est évidemment une jolie satisfaction, d'autant plus que lui, le premier épisode qui était sorti, on le rappelle quand même dans un contexte pandémique encore, disons, pas forcément pandémique, mais de reprise, lui n'avait pas atteint ce cap-là, ce qui permet du coup à Dune deuxième partie de faire 28% d'entrée en plus par rapport à Dune première partie. C'est également la première fois depuis Barbie qu'un film réalise 1 million d'entrées sur ses plus d'1 million d'entrées sur ses 5 premiers jours.
C'est pas arrivé depuis Barbie ?
Non, ce n'est pas arrivé depuis Barbie, donc c'est d'autant plus notable. C'est Julien une belle satisfaction en tout cas.
Oui, mais alors on peut voir aussi, parce que le premier Dune, il avait ouvert à 876, donc comme tu l'as dit, plus de 28%, mais c'était presque déjà un beau démarrage pour le premier Dune par rapport aux US.
Et par rapport au contexte aussi de l'époque qui était vraiment pas simple.
Alors après
et
la question...
Et par rapport, je vais vous couper, mais une franchise qui en soi était passée sous silence pendant des dizaines d'années. Quoi, donc,
Exactement, et surtout, alors ce qui est intéressant là, c'est de regarder quand on filme passe 1 million d'entrées, est-ce qu'il finit forcément au-dessus des 3,5 millions?
Ah, c'est la question.
C'est la question.
Vous avez 3 heures.
Non. ça va dépendre aussi beaucoup du contexte concurrentiel. Et le fait est, et tu l'as dit en préambule, que le contexte concurrentiel, il n'est pas forcément très fort. En tout cas, il n'y a pas de films qui vont aller le concurrencer sur ce créneau-là, ce qui va lui permettre d'avoir plutôt les coups des freins sur les semaines à venir et d'espérer passer cette barre des 4 millions d'entrées.
Il y a la concurrence, il y a les retours spectateurs, et pour l'instant, les retours spectateurs sur Dune sont dithyrambiques. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il passe les 3 millions.
Alors, même c'est 3,5 millions, j'ai pointé, mais alors, j'ai repris 2023, 2022, 2021. Sur tous les titres qui ont eu un opening weekend au-dessus du million d'entrées, tu as 73% de chances de passer les 3,5 millions. Mais je pense, comme l'a dit Max, la question ne se pose pas. Les retours spectateurs, la concurrence à venir. Donc, il n'y a aucune raison. Donc, c'est vrai que même plutôt la question, c'est 4 millions, 4,5 millions. On va voir, peut-être qu'on s'emballe, peut-être que la SF, ça peut bloquer. Mais ça serait quand même très... très inhabituel en tout cas.
Son opening, il est très proche de Mourir peut attendre, le dernier James Bond qui finit 4 millions
pile.
Ouais.
Ah ouais. Arrache.
Tu peux le comparer avec le côté un petit peu qualitatif, un petit peu.
Et ironiquement, le prochain blockbuster à sortir, c'est un autre film Warner, c'est Godzilla et Kong, et ce sera suivi d'SOS Fantôme dont on parlait tout à l'heure.
Mais ce n'est pas ironique, c'est très bien.
Oui, mais ironiquement, parce que d'une certaine façon. C'est le seul qui peut entraver la bonne continuation de Dune à un moment donné, notamment dans les salles premium.
Après, dans 4 semaines, le film, il aura eu le temps de vivre.
Ouais, tout à fait.
Mais Dune, contrairement à Godzilla. Et là, c'est bien parce qu'on a un peu le temps, on va parler de ça. C'est un film que les gens du marketing appellent Four Quadrants, c'est-à-dire qui se touche les quatre générations différentes de spectateurs quand Godzilla versus Kong n'est pas dans ce genre-là et va cibler un public un peu plus particulier, ce qui peut aussi l'empêcher d'aller à un certain niveau quand un film comme Dune, qui est du coup Four Quadrants, est un peu sans limite, entre guillemets.
Et puis il profitera des vacances de Pâques, hein, Dune, parce que de toute façon, avec la durée, il y a des gens qui ne l'auront pas encore vu, donc il sera encore présent.
Et aussi du printemps de cinéma, bien sûr, qui aura lieu la semaine du 20 mars.
En deuxième position, ce n'est pas Bob Marley, non, c'est un film qui a mieux tenu, c'est Une vie chez SND, donc le film avec Anthony Hopkins qui lui perd que 24% de ses entrées sur son second week-end. C'est déjà une excellente satisfaction pour SND, puisque avec un cumul de 719 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end, on voit pas vraiment comment le film ne peut pas passer la barre du million d'entrées. Et même maintenant, on peut se dire que le 1,5 million est déjà le prochain objectif pour Une vie. C'est vraiment un film qui a vraiment touché le public qui devait toucher, à savoir un public senior sur lequel ils s'y sont vraiment retrouvés et où il y a eu un plébiscite massif là-dessus.
SND qui refait comme La Tresse, mais en mieux.
Ouais, encore plus impressionnant que La Tresse. Après, à voir, parce que La Tresse était vraiment un film de continuation aussi, à voir si Une vie il parviendra aussi bien.
Ouais, mais déjà il tient bien, déjà les retours sont bons, donc on peut vraiment l'imaginer comme ça, et on peut l'imaginer à 1,5, et on peut même se dire qu'il va peut-être faire encore mieux.
Et donc je le disais, Bob Marley One Love, sorti par Paramount, lui, en plus de céder sa place de leader, passe directement en troisième position, mais pas de panique, c'est encore une très belle tenue, moins 28%. Bon, c'est une très belle tenue, c'est une bonne tenue en tout cas, à moins 28%. Le film est déjà quasiment à 1,5 million d'entrées, 1 483 000 entrées. On le disait en préambule quand on parlait du box-office international, c'est un score impressionnant, c'est un score qui est aussi très positif pour le biopic musical. Et l'un des derniers grands biopics musicals en date en termes de fréquentation, en termes de chiffres, c'était Bohemian Rhapsody en 2018, le film sur Queen. Et là, il accuse un retard seulement de moins 32% sur Bohemian Rhapsody, qui lui avait fini en plus à plus de 4 millions d'entrées. Désormais, Julien, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Bob Marley ?
Après Bohemian, c'était un phénomène. Je ne suis pas sûr que ce soit du même niveau.
Continuation légendaire sur Bohemian. Ouais.
Oui, exactement. Il était exactement à 2,2 millions si on les compare. Il a déjà battu Elvis, qui a fait 1,2 million. Il a déjà battu Rocketman, qui était un petit peu en dessous, à 800 000. Donc tu es même presque obligé d'aller voir sur des biopics Napoléon, 1,3 million sur la même, après 3 semaines d'exploitation, 3 week-ends. Donc, non, je sais pas, moi je le mets autour de 1,7, 1,8.
Après 3 week-ends, il est à mi-chemin entre Napoléon et La La Land. Du coup, moi je le mets pile au milieu entre les deux, vers 1,8.
Ok, donc on est sur la même estime. On est pas mal.
Ouais, pour une cas, fois.
Belle performance pour ce Bob Marley distribué par Paramount. Et alors après, Tom, on a 3 films français qui se tiennent, tenez-vous bien, dans moins de 1000 entrées au week-end.
C'est fou et c'est bien à la fois. Ça veut dire que les trois trouvent leur marché. Pourtant sur des cibles, alors on peut le dire, des cibles complémentaires pour les trois films. Et on commence par celui qui a tout juste 600 entrées de plus que le quatrième, qui a 600 entrées de plus que le cinquième, à savoir Cocorico, donc également chez SND. Ça fait deux films SND dans le top 5. 1 545 000 entrées pour Cocorico. On le disait il y a 3 semaines quand on a reçu Joël Pourgaton, ça ressemblait à une carrière similaire à Chasse Gardée, le précédent film avec Didier Bourdon sorti par UGC. Puis ça va finalement Cocorico va faire encore mieux, puisque lui, Chasse Gardée, ça va s'arrêter autour de 1,8 million. Et là, on se dit que les 2 millions sont pas inatteignables pour Cocorico, avec une belle continuation à venir, une vraie belle satisfaction pour, on le rappelle, une comédie à 10 millions d'euros de budget, donc qui reste tout de même sur un budget moyen plus.
Voilà, et derrière Cocorico, donc en embuscade sur ce week-end. À noter d'ailleurs que c'est à la photo finish que ça se joue là, parce que sur les remontées automatiques de Comscore, l'ordre n'était pas le même. Donc c'est assez
et l'ordre ne sera pas le même mercredi.
Et l'ordre ne sera pas le même mercredi, effectivement.
Surtout si ça se joue avec si peu d'entrées, parce que par exemple, Chien et Chat devraient repasser devant. Après, entre Bob Marley, Une vie à voir, ça c'est moins évident.
Ouais. Tu as dévoilé le titre du film français qui vient derrière.
Exact, et c'est le champion de la continuation cette semaine, puisque avec seulement moins 3% d'une semaine sur l'autre, il profite à balle de la continuation des vacances scolaires sur deux zones, à savoir la zone A et la zone B. En tout cas, Chien et Chat, lui, cumule désormais 840 000 entrées. Le million d'entrées est évidemment le prochain objectif, d'autant plus que la concurrence en jeune public ne sera pas là jusqu'à la sortie de Kung Fu Panda 4 à la fin du mois de mars. Donc il aura le temps, une fois les vacances scolaires, de continuer sa carrière sur un format mercredi, samedi, dimanche.
Ouais, mais là en plus on est sur double zone encore cette semaine. Il reste encore une semaine en double zone.
Il reste qu'une seule zone là.
Là il n'y a plus qu'une seule zone cette semaine.
Ouais,
là à partir d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, lundi 4 mars, il reste
c'est la queue de comète de
c'est
vacances.
C'est la dure loi des vacances.
Le million d'entrées devrait quand même tomber dans l'idée d'ici dimanche.
Oui, bien sûr, sans problème.
Et on le disait donc, l'autre film français de ce trio infernal.
Oui, exactement, le troisième, il est juste derrière, hein, encore une fois, bon, ces trois films, tu le disais Aurélien, se tiennent à même pas 1000 entrées. Il s'agit de Maison de Retraite 2, lui, il est à chercher du côté de chez Apollo Film, 1 095 000 entrées à l'issue de lui, pour le coup, de son troisième week-end. C'est une performance d'autant plus remarquable qu'il partait avec le référentiel assez fou du précédent épisode Maison de Retraite premier volet qui avait terminé avec 2 millions d'entrées. Il accuse un retard finalement assez faible de 16% par rapport au précédent épisode, avec un budget tout de même qui est un peu plus supérieur. Là on parle d'un budget de 12 millions d'euros, mais un score qui, je trouve, est en ligne avec son budget de production. Donc belle opération pour Apollo.
À voir si toutefois il parvient à rester comme ça dans le box-office comme le premier, puisque tu disais moins 16%, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de semaines pendant lesquelles Maison de Retraite 1 a continué à faire des entrées. Est-ce que ça va être encore le cas cette fois-ci?
La compétition semble un petit peu plus féroce, donc si déjà. Mais moi je suis étonné hein, par sa tenue, par sa belle performance. S'il arrive à 1,3 million, et alors 1,5 million, ça serait magnifique pour le film. Mmh. Mais bon, pour l'instant, moi, je l'ai ciblé sur du 1-3.
Et disons quand même que c'est le quatrième film en 2024 à passer le cap du million d'entrées.
Exactement.
Il n'y en a eu que 4 en 3 mois. Enfin, en 2 mois, à l'aube du troisième mois.
Dans Dune, qu'il a fait cette semaine,
voilà,
en 5 jours.
C'est ça. C'est tout le
paradoxe.
Exactement.
En septième position, nous avons un autre film jeune public, puisqu'il s'agit du Dernier Jaguar de Gilles Demestre, moins 13% également pour le film sorti par Studio Canal. Il bénéficie lui aussi de la continuation des vacances scolaires, 793 000 entrées pour le Dernier Jaguar. Si on le compare avec les deux précédents hits de Gilles Demestre, à savoir Mia et le Lion, on est à moins 36%. Et enfin, par rapport à Le Loup et le Lion, on est à moins 19%. Le film démarrait avec une carrière, avec une traîne similaire au Loup et le Lion. Il commence à prendre un peu de retard par rapport à cela. Voilà. Aujourd'hui, on va rester raisonnable sur le Dernier Jaguar et espérer pour ce canal de dépasser le million d'entrées. Et ça sera déjà, je pense, une satisfaction.
Le Dernier Jaguar, il a perdu la bataille contre Chien et Chat, je pense qu'on peut le dire, sur ce public très familial des vacances de février. Après, le film fait quand même une jolie performance avec les MSD, encore une fois, jusqu'à la sortie de Kung Fu Panda dans quelques semaines, il peut peut-être aller chercher presque son million d'entrées, mais il perd la bataille contre Chien et Chat.
Alors, avec une perspective plus optimiste, on pourrait dire que les deux sont aussi vainqueurs, puisqu'ils vont les deux dépasser le million d'entrées, mais c'est vrai que si on doit les mettre en concurrence, en effet, c'est Chien et Chat qui tire le plus son épingle du jeu.
Il est en perte par rapport au précédent film de Gilles Demestre. C'est pour ça que moi je dis qu'il perd un peu la bataille de la période.
Alors, je suis pas sûr de mon info, mais quel animal pour le prochain film de Gilles Demestre?
Ah ben, je sais.
Ah, tu sais? Ah, je t'es sais. Au courant?
Ah oui.
Le loup et le jaguar blanc.
Non.
Pas du tout. Ce sera d'ailleurs le même animal qu'un film d'animation qui sort dans
c'est
quelques
ça,
semaines.
Exactement.
Ce sera un panda. On en reparlera.
On a hâte.
On a parlé que d'une seule nouveauté, Tom. Sont les autres
Les autres, elles sont allées à chercher à la fin du top 10, en 8e position d'abord avec Madame de Sévigné chez Ad Vitam. 90 000 entrées pour le biopic historique français. C'est plutôt satisfaisant, je trouve, sur une combinaison de sorties maîtrisée à 271 copies. Voilà, sur un public plutôt senior. Le film trouve pour l'instant son public. Sur de la pure comédie, on arrive en 9e position sur Tombé du camion avec Patrick Timsit et Valérie Bonneton dans les rôles principaux. 64 000 entrées pour le film sorti par Zinc, aidé par 4 000 entrées d'avant-première. Voilà, c'est un résultat convenable moins, on peut dire. C'est
un nouveau terme, convenable moins.
C'est bien sans être exceptionnel.
Non, c'est pas terrible quand même, 64 000 entrées.
C'est convenable moins, je veux dire.
C'est pas terrible, ouais, disons-le. Deux autres films famille où on arrive à tirer leur épingle du jeu. Il y a d'abord un film distribué par Le Pacte.
Ouais, tout à fait. Là, c'est la 10e position pour Le Royaume de Kensuke. 283 000 entrées à l'issue de son 4e week-end. Moins 12%. Pareil pour les autres jeunes films jeunes publics. Ils profitent des vacances scolaires pour continuer à perdre peu. Et l'autre film de jeune public qui lui tire vraiment son épingle du jeu,
Anatomie d'une chute,
et vise vraiment sa deuxième carrière, et ça on peut le dire, les chiffres en attestent, sur ses vacances de février, c'est Migration, qui lui est à même à plus 10%. Il ajoute 45 000 entrées en 13e semaine pour un film qui est sorti le 6 décembre. C'est 1 678 000 entrées pour le film sorti par Universal Pictures, qui rattrape, on peut le dire, ses objectifs par rapport à son démarrage qui était en dessous des standards pour un film Illumination.
Voilà, quelques autres chiffres en vrac peut-être pour terminer.
Ouais, on peut parler de Madame Web, qui est évidemment une déception du côté de Sony. C'est un film Marvel, moins 50% en troisième semaine. Il est à 390 000 entrées. C'est même pas sûr qu'il batte Blue Beetle, qui était déjà en soi une déception, qui était lui plutôt du côté de DC Comics, mais qui était aussi sur le créneau super-héros. On peut parler également de la deuxième carrière, non, la sixième carrière d'Anatomie d'une chute, qui lui, en 8e semaine et 11e du classement avec 53 000 entrées.
Qui est passé devant la zone d'intérêt, moi je trouve ça formidable.
Ouais, c'est fou. 1 735 000 entrées pour le film de Justine Triet, multiprimé. Et bien malin celui qui dira le chiffre fin de carrière, parce qu'en plus avec les Oscars et ce qui peut arriver aux Oscars, on sait pas jusqu'où le film peut aller.
Il faudra qu'on rappelle Quentin, parce qu'on l'avait eu avant le début de cette énième carrière du film, et il nous avait dit bah là c'est fini, on a essoré le film. Il s'était un peu trompé, donc on va le rappeler dans quelques temps pour refaire un point chiffre avec lui.
Et c'est quand même lui qui nous avait dit qu'il y avait des gens qui savaient pas que le film était sorti.
C'était le premier à le dire, effectivement.
Et on peut parler aussi du Royaume des Abysses qui dépasse les 120 000 entrées en deuxième semaine, pour le coup, super score pour le film de KMBO. Ouais.
Exactement. Et puis, pour étayer mon propos par rapport au démarrage de Tombé du camion, que je considérais comme bien sans être exceptionnel, on peut quand même le mettre en perspective avec Les Chèvres, qui lui, pour le coup, est une vraie déception.
Mais là, on a dit accident industriel pour Les Chèvres.
Ouais. Ouais, je n'osais pas trop sortir le terme, mais on est plutôt sur ce genre de phénomène, malheureusement. Le film de Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commander, 147 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end. Waouh, c'est douloureux.
Et sur le budget que c'est, il partait bas, il perd 54% en deuxième semaine. C'est vraiment une déception, quoi.
Ouais, c'est vraiment compliqué.
Autres sorties aussi.
Mais t'as pas dit la zone of interest, parce qu'il a quand même un chiffre inattendu. Personne ne le voyait aussi haut.
Ouais, mais zone of interest, 5e semaine, 673 000 entrées. Voilà, le film est une vraie satisfaction pour Backfilm. Et encore une fois, chapeau à eux pour ce beau travail.
Et parmi les sorties de la semaine dernière, signalons Black Tea qui fait autour de 30 000 entrées, La mère de tous les mensonges autour de 11 000 entrées. Voilà ce qu'on peut dire. Après, on descend très bas.
Ouais, mais pour rendre hommage à Jérémy qui a cité tous les titres des nouveautés, on citera tout de même Eureka, 4200 entrées au Pacte. Il n'y a pas d'ombre dans le désert, j'imagine. 4000 entrées au film du Losange. Et enfin, je termine avec Débâcle, qui est sans mauvais jeu de mots, qui est une débâcle pour jour de fête avec 3200 entrées, mais tout de même sorti sur 29 copies, donc évidemment, c'est pour la boutade.
Ouais, et sinon, la ressortie du nom de la rose, qui fait quand même 16 000 entrées. Très belle ressortie pour ce film culte de Jean-Jacques Hano.
Et on a oublié de faire le point sur Dali. Bah devient-il le meilleur résultat pour un film de Quentin Dupieux ?
Avec 436 000 entrées.
Il est, pour l'instant, non, puisque Yannick a terminé à 464 000 entrées, mais bon.
Ça va se jouer à la photo finish.
Ouais, exactement.
Très bien, bah écoutez...
Il y a juste Sleep, le film de Jokers, le film d'horreur qui est sorti la semaine dernière, qu'on est à quasiment 75 000 entrées.
Qui profite à fond d'un créneau assez libre de toute concurrence.
Exactement,
aujourd'hui.
On n'en a pas vu depuis le début de l'année.
Non,
si
il y a eu Amelia's Children au PACT, qui lui aussi avait profité de cet effet-là. Et puis avant, il y avait Winter...
Il y avait Night Swim. Et avant ça, c'était Vermine surtout qui avait tenu le mois de janvier.
Alors, il y en aura un qui arrive cette semaine, on va en parler dans quelques instants. Vous aviez autre chose à ajouter ou pas ?
Non, je disais que chaque film d'horreur sorti depuis Vermine avait tiré son épingle du jeu, comme quoi il y a de la demande, mais pas assez de films dans ce genre-là.
Alors justement, cette semaine, tu disais, Julien, en préambule, que ça allait être une semaine compliquée en termes de chiffres, ou en tout cas qu'il n'y avait pas forcément de leader sur le papier.
Voilà,
soyons diplomates. Pas de leader sur la case de départ. Toutefois, on en a quand même sélectionné 4 pour le sondage orchestré par Mafili. Ces 4 films sont Boléro, le nouveau film d'Anne Fontaine, distribué par SND. Alors la question, est-ce que SND va réussir à mettre 3 films dans le top 5? Ce serait pas impossible, on verra. Je ne sais pas. Écoutez, c'est la question.
Après, attention, quand je parle de locomotive, c'est un démarrage au-dessus des 600. Bob Marley était... Voilà, ça commençait à être une locomotive pour le marché. On parle même pas d'une, c'est une locomotive. Voilà,
c'est les wagons, c'est pas la locomotive.
Ouais, voilà. On peut le dire comme ça. Boléro, si tu regardes, très bien, Boléro. Le film a l'air de qualité.
Personnage, Doria Tillier.
Il peut marcher sur la durée, etc. C'est juste qu'au niveau du démarrage, je le vois pas tout exploser sur son premier week-end. Coco avant Chanel, il avait fait 353 000 entrées.
Plus gros succès d'Anne Fontaine jusqu'à présent, avec plus d'1 million d'entrées.
Donc voilà, si elle arrive à faire démarrer son film à cette hauteur-là, bravo. Hein.
On verra ça la semaine prochaine, gros teasing. Également à l'affiche de ce sondage, Comme un fils, le nouveau film de Nicolas Boukrieff. Vous vous souvenez peut-être de lui quand il avait réalisé Le Convoyeur, notamment.
On adore.
Incroyable
là,
film.
Là, c'est un film avec Vincent Lindon. Également,
Le Convoyeur, non ?
Non, mais là, Comme un fils.
Dupontel.
La vie de ma mère, c'est un nouveau film distribué par KMBO, décidément sur tous les fronts. Film français emmené par William Legbill et Agnès Jaoui. Et puis La salle des profs, film distribué par Tandem, film allemand qui a fait déjà beaucoup parler de lui en festival et dont le buzz monte.
Il a eu meilleur film, meilleure réalisation sur les, je sais pas comment ils appellent ça, les Césars allemands.
Et ça se ressent dans les chiffres de ce sondage puisqu'il prend la première place avec 43% d'envie d'aller le voir, suivi, et c'est serré, de 27% pour Boléro, 23% pour La vie de ma mère et à la dernière place Comme un fils avec 7% pour l'instant.
Et tu sais quoi, je suis mauvaise langue parce qu'on aurait presque envie de rajouter HLM Poussy dont on a beaucoup entendu parler.
Bah, c'est toujours le problème de ces sondages, on ne peut pas tout mettre. Mais HLM Poussy fait également partie des autres films à sortir cette semaine. Le film de Nora El Ourche, distribué par Panam. On avait vu des extraits à Deauville, on s'en souvient. Également à l'affiche cette semaine, le film peut-être sur le plus de copies d'ailleurs, c'est 14 jours pour aller mieux. La comédie d'Edouard Pluvieux qui s'est fait un peu remarquer là, en début d'année à l'Alpe d'Huez avec Zabou Breitman et Maxime Gasteuil. Et puis on parlait d'un film d'horreur, donc il y a Imaginary, c'est chez Metro, le nouveau film de Jeff Wadlow. Je crois que c'est une production Blumhouse, hein, ou non, peut-être pas, je sais plus. En tout cas, Imaginary, ce sera donc distribué par Metro.
Tout à fait, c'est Blumhouse.
Ouais. C'est bien ça, merci Tom. Blue Giant, c'est chez Eurozoom, là aussi à suivre de près. Inch'Allah, un fils, là aussi beaucoup de déco positif hein, depuis sa présentation à Cannes, c'est chez Pyramide, Oli chez New Story, Les Carnets de Siegfried chez Condor, Chikun chez Epicentre, Et puis après, sur moins de 10 copies, L'ennemi public numéro 0, Le temps du voyage, Lettre errante, sans compter les reprises, avec parmi les reprises à noter la trilogie de Park Chan-wook, c'est chez Metro.
La trilogie de la vengeance ?
La trilogie de la vengeance, tout à fait, avec Oldboy, qui a d'ailleurs fait des avant-premières chez Pathé il y a quelques jours de ça, qui ont plutôt très bien marché. Oldboy restauré en 4K. Ça faisait longtemps, ce film qui aurait dû, rappelez-vous peut-être, gagner la Palme d'Or en 2004, l'année où Tarantino était président du jury, qui était reparti avec le Grand Prix, et c'était Michael Moore qui l'avait gagné, mais Tarantino voulait que ce soit, d'après les rumeurs en tout cas, Oldboy. Voilà ce qu'on pouvait dire.
Est-ce qu'il n'a pas permis à Parasite d'avoir cette Palme d'Or ?
Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc,
est-ce que Parasite avait besoin de ça ?
15 nouveautés dans cette semaine qui sera marquée par, on le disait, la fin des vacances d'hiver et aussi les Oscars. Ce sera dimanche prochain. On en reparlera bien entendu la semaine prochaine. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à aller au cinéma. Et on remercie encore Lionel Guenoun qui nous a écouté tout du long, parfois en clignant un petit peu de l'œil, il faut bien le dire.
On veut dire, il a fait une sieste.
Mais Vega Prod est là. Et on était ravis d'enregistrer dans ces nouveaux locaux. Voilà, et bien on vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine. Salut.